Écoute un métier, le podcast qui te permet de construire ton avenir sur Radio Campus Tours. Salut, c'est Camille. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode de podcast. Mon invitée est Sophie Brassard, responsable formation continue et apprentissage de l'UFR Sciences Humaines et Sociales à l'Université de Paris-Cité. Nous aborderons ensemble son parcours universitaire et professionnel. Je te souhaite une bonne écoute. Donc, Madame Sophie Brassard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable formation continue et apprentissage à l'Université Paris-Cité depuis 5 mois et formatrice occasionnelle en travail social à l'École pratique de service social depuis 3 ans maintenant. Est-ce que c'est bien ça?
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre parcours universitaire, ce que vous avez appris lors de vos études?
Alors, pour une petite précision, déjà en ce qui concerne mon poste actuel, je suis responsable du service donc formation continue et apprentissage au sein de l'UFR Sciences Humaines et Sociales. Okay. Je précise puisque l'organisation de la formation continue à l'université est très spécifique.
Oui, découpée en branches. Coup,
voilà, c'est vraiment pour préciser mon périmètre d'intervention qui est quand même limité à l'UFR qui porte les formations en sciences humaines et sociales. Voilà. Mon parcours universitaire. Alors, donc déjà, petite précision, j'ai 36 ans. Donc, mon parcours universitaire, en tout cas le premier, date d'il y a déjà quelques années. Après un bac général, j'ai obtenu un DUT carrière sociale, donc à l'époque ça s'appelait un DUT carrière sociale, option animation sociale et socioculturelle, donc j'ai travaillé quelque peu dans l'animation sociale et socioculturelle. En même temps, j'ai poursuivi mes études universitaires en sciences de l'éducation. À l'époque, c'était que les sciences de l'éducation sans la formation. C'est venu se rajouter plus tard. Et jusqu'en maîtrise, donc en première année de master, dans un parcours qui s'appelait à l'époque insertion et intervention sociale sur les territoires. Ce qui m'a amené à travailler, alors, en parallèle de ça, je veux travailler déjà dans le champ associatif en tant que travailleur social, mais non diplômé, avec les diplômes d'État reconnus dans le champ du travail social. Donc, par la suite, j'ai intégré une école d'éducateurs spécialisés, une école qui forme les éducateurs spécialisés, donc un centre de formation pour les travailleurs sociaux. J'ai repris 2 années d'études en apprentissage. Et après ces 2 années d'études, donc j'ai été diplômée en 2015, ça fait 10 ans. Et après tous ces diplômes et toutes ces formations en parallèle d'expériences professionnelles dans l'animation sociale, socioculturelle et le travail social plus largement, j'ai travaillé dans les champs de la protection de l'enfance, de l'insertion et du handicap. En tant qu'éducatrice spécialisée, ensuite coordinatrice, et les évolutions de carrière. Donc, je suis passée de mon parcours universitaire là au parcours professionnel, parce que ensuite, ça revient sur un parcours universitaire.
Pas de souci.
Enfin, je précise parce que ça peut paraître un petit peu alambiqué, mais ça a du sens. Donc voilà. Travailleur social, coordinatrice, et pour les travailleurs sociaux, les évolutions de carrière souvent habituelles, c'est après avoir occupé des fonctions de travailleur social, on occupe ensuite des fonctions plutôt managériales. En devenant coordinatrice, j'ai bien vu que les fonctions managériales dans l'action sociale et médico-sociale ne me conviendraient pas. Donc, j'ai commencé à m'interroger un petit peu sur mon avenir. J'ai repris à l'époque une formation universitaire au CNAP en recherche en travail social. Sauf que je pense que je n'étais pas dans les meilleures dispositions pour aller jusqu'au bout du cursus. et les modalités de formation. Donc, il y avait une partie qui était en asynchrone à distance. Je vais vous laisser peut-être être un peu moins ébloui. D'accord. Donc, en asynchrone à distance, et voilà, pour moi, ce n'était pas des modalités de formation qui me permettaient vraiment m'impliquer et d'être enfin voilà, de tenir, on va dire, jusqu'au bout mes engagements dans le cadre de la formation. Et en parler de ça, c'est à la même période où j'ai commencé à mes activités de formatrice. Et là, j'ai découvert en fait un nouveau métier. J'avais plein de préconçus. Régulièrement, les personnes autour de moi me disaient que c'était. Alors, soit j'avais une version et un discours qui était, oh là là, c'est difficile d'y accéder, c'est compliqué, c'est un métier exigeant, un secteur très peu lisible, etc. Quand je suis arrivée là-bas, je n'ai pas du tout trouvé que c'était le cas. Donc, soit j'avais ce discours-là, soit j'avais le discours de, tu verras, c'est facile. Et en fait, c'est pas du tout ni facile, ni obscur. Bah, en fait, c'est juste un nouveau métier. Voilà. Donc, c'est pas. Donc, j'ai découvert que. Parce qu'on connaissait les métiers, comment dire. Donc là, actuellement, je forme des travailleurs sociaux, des futurs travailleurs sociaux diplômés, et c'est pas parce qu'on connaît une forme d'exercice du métier qu'on est, enfin, auquel les personnes qu'on forme sont destinées à pratiquer, que bah, on est un bon formateur ou qu'on sait former les personnes à exercer ce métier-là. Et ça, bah, du coup, ça a été enfin, je ne sais pas comment dire ça, je ne vais pas dire révélation parce que c'est un peu caricatural et ce n'est pas du tout mon vocabulaire habituel, mais ouais, ça a été un renouveau, vraiment, un renouveau professionnel de me dire, mais en fait, c'est extraordinaire. Enfin, il y a un champ des possibles qui s'ouvre sur des perspectives professionnelles, enfin, et une évolution professionnelle en ce qui me concerne que je n'avais pas du tout imaginé. Et donc voilà, je me suis retrouvée à devenir formatrice occasionnelle. J'ai occupé des postes à temps plein, aussi en parallèle. Donc ça va très très vite, hein, dès qu'on en fait un peu et qu'on sait un peu faire et qu'on commence à dire qu'on sait faire et qu'on cherche un peu du travail, puis qu'on commence à être identifié comme étant compétent, fiable, disponible. En fait, très très vite, on se retrouve avec énormément de enfin, énormément, quantité suffisante, je dirais énormément, peut-être pas, mais avec des demandes, et plus on les répond, plus il y en a un. C'est un peu c'est sans fin, presque. Voilà, donc j'ai fait ça, et donc au bout de 2 ans, l'activité de formatrice, donc les 3 années à l'école pratique en service social, où j'interviens encore aujourd'hui. Mais dans des proportions moindres qu'au début, certaines périodes c'était plus important. Enfin voilà, du coup je module, et c'est ce qui est intéressant dans le statut d'occasionnel, c'est que je peux moduler selon un peu mes autres contraintes professionnelles qui me permettent d'avoir un salaire et des revenus fixes. Enfin, donc avant là d'en arriver là où j'en suis, j'ai fait 2 ans de CDD, donc en travaillant à temps plein, tout en gardant mes missions au sein de Cergy, au sein de l'école à Cergy, à l'EPFS. Voilà. Et puis au bout d'un an à peine, j'ai bien rapidement j'ai vu qu'il fallait que je me forme. En tout cas, j'avais besoin de me former, j'avais besoin de m'informer, j'avais besoin de comprendre ce nouveau secteur professionnel, même si, bon, en ayant fait les sciences de l'éducation enfin, au début de mon cursus universitaire, travaillant dans le social, il y a quand même des choses qui sont un peu à corrélées, hein, des choses qui se recoupent assez rapidement. Donc, j'ai repris un master 2, et cette fois-ci, je suis allée jusqu'au bout. Un master 2 en sciences de l'éducation qui s'appelle cadre et consultant en formation continue, qui est dispensé à l'université Paris Cité. Donc j'ai été formée par l'Université Paris-Cité et diplômée en 2024. Et j'occupe mon poste depuis octobre 2024.
Et donc, dans ce cadre, est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs qui ne connaissent peut-être pas forcément ce milieu-là, ce qu'est la formation continue et qui peut en bénéficier ?
Ok. Formation continue, c'est ce qu'on a appelé à différentes époques l'éducation permanente, la formation pour adultes, la formation professionnelle. Je crois que j'ai fait les... Et formation continue. Je crois que j'ai fait les grandes lignes. Donc, en fait, c'est la formation à destination des actifs. Donc, quand on parle d'actifs, c'est les actifs au sens du Bureau international du travail, c'est-à-dire les personnes qui travaillent, salariées, qui ont une activité professionnelle rémunératrice, ou des chômeurs, en fait, des demandeurs d'emploi qui sont inscrits sur les listes, etc. Et donc, toute personne ayant travaillé, travaillant ou étant inscrite comme demandeur d'emploi a des droits à la formation professionnelle et peut se former, normalement, enfin, les textes, ils disent de façon... J'ai pas envie d'employer le terme, donc j'essaie de trouver. Parce que c'est pas un terme qui voilà. J'ai pas envie d'employer ce terme-là. En gros, c'est former les adultes à des métiers ou à développer des compétences ou en lien avec des évolutions de métiers ou à participer à des reconversions professionnelles, à des évolutions de carrière, à des mobilités, quelles qu'elles soient. Voilà, la formation. Dans toutes ses formes.
D'accord.
Et tout le monde y a le droit.
Et concernant votre travail justement à l'université, quelles sont vos tâches actuellement ?
Alors moi actuellement je suis responsable du service, donc j'ai des tâches managériales. Je travaille, bon, pour vous faire un descriptif un petit peu rapide du fonctionnement universitaire, donc il y a une branche administrative et une branche enseignante, enseignant, chercheur, enfin recherche et enseignement recherche. Et donc dans la branche, moi je suis dans la branche administrative à l'Université Paris-Cité et au sein d'un UFR, donc qui est en plus un petit UFR ici, il y a trois gestionnaires donc, qui sont assistants de formation qui mènent les activités d'inscription, de suivi des absences, de gestion budgétaire parfois aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? De gestion des déplacements des intervenants, de pots divers et variés, de relations avec les entreprises, des aspects de contrats, de conventions. Enfin, voilà, tous les aspects administratifs en fait qui permettent à la formation de fonctionner, mais aussi les aspects organisationnels et logistiques en soutien du coup des responsables pédagogiques. Voilà. Ça, c'est le travail des gestionnaires de formation. Et donc, moi, je suis responsable du service, donc mes missions managériales, elles sont en lien avec la gestion, le management d'équipe, quoi. Je ne sais pas comment vous décrire ça différemment. Du management d'équipe, donc autant au niveau du collectif que de l'individuel. C'est un service qui s'est créé, en fait, il y a 5 mois. Donc, mon poste a été créé, le service a été créé, alors qu'avant, les gestionnaires étaient complètement intégrés dans le service de la scolarité. Et donc, l'UFR, au vu en réponse à une situation et à des besoins importants au sein de l'UFR, à organiser l'activité pour pouvoir permettre aux formations de... En tout cas, sur la gestion administrative et financière majoritairement, de mieux fonctionner. Voilà. Parce qu'il y avait un réel manque humain, des moyens humains, répondre un peu aux besoins administratifs et financiers. Voilà, donc moi j'ai des missions managériales, auprès des équipes. Donc ça, je l'ai dit, j'arrête pas de leur dire.
C'est pas grave.
Non, mais parce que j'essaye de préciser qu'est-ce que je fais au niveau managérial finalement. Là, j'ai créé un service, créé une dynamique de service qui est encore en cours de construction, mais je dirais que les bases là sont posées. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Pas mécontente d'avoir réussi à avoir fait ça. Là, en fait, ce que j'ai fait ces derniers mois, c'était d'organiser l'activité.
D'accord.
Organiser l'activité du service, répartir les tâches, essayer de rééquilibrer en fait les charges aussi. Moi, de découvrir et de comprendre l'environnement de travail et les fonctionnements et les process internes qui sont très spécifiques au niveau de l'université, tout en essayant de trouver une organisation et d'apporter une meilleure lisibilité sur les aspects financiers, parce qu'il y a beaucoup de mouvements financiers en lien avec la formation professionnelle, mais aussi sur les aspects, je dirais, de communication, si je peux dire ça comme ça, et de compréhension du fonctionnement de la formation professionnelle. C'est surtout ça, en fait, que je viens faire. Et c'est permettre à tout le monde de mieux appréhender les aspects, les spécificités liées à la formation professionnelle.
Donc, vous avez plusieurs interlocuteurs au sein de l'université.
Ouais.
Lesquels sont-elles ?
Je travaille avec les enseignants-chercheurs qui sont responsables des formations, la formation professionnelle, elle est vraiment au croisement de différents métiers. Donc sur les aspects financiers, elle est en lien avec les comptables et tous les gestionnaires financiers. Sur les aspects juridique, elle peut être aussi en lien avec des juristes. Sur les aspects administratifs, du coup, elle est en lien avec toute l'organisation administrative de l'université, qui est quand même une organisation assez importante. Elle est en lien aussi avec des dimensions de l'ordre de la communication, puisqu'on vend. Alors, c'est pas, je ne vends pas au sens où je commercialise toute seule, mais en fait, l'université propose des formations à un coût qui n'est pas un coût. Elle vend une formation à des entreprises, en fait,
oui.
En partie. Donc, il y a un aspect commercial, d'une certaine façon. C'est sur un aspect commercial. Il y a la communication, donc on travaille aussi beaucoup avec les services de communication. Il y a des aspects réglementaires aussi qui sont hyper exigeants sur les aspects sur les éléments qu'on communique, par exemple, autour de la formation professionnelle. Et donc, je travaille avec tous les acteurs de la formation professionnelle de l'université. Donc, c'est ce que je disais au départ. Moi, je suis responsable au CELMULFER, mais il s'avère qu'il y a, sur différentes strates de l'organisation de l'université, il y a des acteurs de la formation professionnelle qui sont censés piloter, encadrer, coordonner et permettre la mise en place, la mise en application de la réglementation des droits de la formation professionnelle. Donc, moi, mon travail, c'est un peu de jongler avec tout ça. Et de comprendre les évolutions, d'être en veille. Il y a beaucoup de veille professionnelle dans les métiers de la formation en général, parce qu'il y a beaucoup d'évolutions,
oui.
C'est régulier. D'être en lien avec les partenaires comme le CFA, puisqu'on propose des formations en apprentissage. On est en lien avec les centres de formation par apprentissage. Voilà, donc j'ai fait l'interne, l'externe, formation en apprentissage, les entreprises parfois directement, puis après tous les partenaires de l'éducation en général, puisqu'on est une université, quoi. Donc ça voilà. Et puis on participe à tous les salons possibles, imaginables, en lien avec les thématiques associées avec la formation professionnelle. Bon, je crois que j'ai fait le tour, hein, c'est pas mal. Hein.
C'est déjà pas mal, oui.
Ouais, c'est pas mal.
Est-ce que vous réalisez des enquêtes de satisfaction sur les formations continues?
Alors, oui, en fait, c'est toujours, c'est propre à l'organisation de l'université, mais nous, on ne les crée pas, on les distribue.
D'accord.
Et on les récupère.
Mais vous les traitez ou est-ce que c'est
ouais,
vous qui les traitez?
Alors, oui. Nous, on ne les traite pas, c'est pareil, c'est traité en centrale et c'est redescendu après. Je vous parle du fonctionnement aujourd'hui.
Oui.
J'espère que des choses pourront évoluer sur cet aspect-là à l'avenir. Mais actuellement, la façon dont c'est organisé, en fait, quasiment toute la formation continue, donc formation professionnelle, et les aspects qualité autour de la formation professionnelle et l'évaluation de la formation, elles sont centralisées en fait au niveau du siège, si on peut dire les choses comme ça, de l'université, et ensuite ça redescend dans les composantes. Voilà. Donc oui, on fait des enquêtes de satisfaction parce que c'est obligatoire de toute façon.
Oui.
Même si on ne voulait pas, on serait obligé de les faire. Et elles sont faites. Je vois quels sont les critères, comment traitez-vous ces retours pour améliorer la qualité des formations. Les critères, alors, je ne les ai pas en tête, mais si je ne me trompe pas, alors je sais qu'il y a des thématiques un peu pédagogiques, administratives, organisationnelles, et je pense qu'il y a des aspects de l'ordre de est-ce que les informations avant la formation, pendant, après vous ont été communiqués, qu'est-ce qui vous a manqué, etc.
Et...
je pense qu'on est à peu près sur ces aspects-là. Je n'ai pas le détail.
Oui, mais...
Là,
mais est-ce que vous pouvez... est-ce qu'en fait, vous avez des pistes ou est-ce que vous envisagez des évolutions futures par rapport à votre métier sur l'évolution de la formation continue, est-ce que ça peut impacter vos tâches actuelles?
Oui. Oui. Ben là, par exemple, il y a des évolutions, il y a des décrets d'application qui ont été qui sont sortis suite à la loi finance. Donc le décret d'application, il est sur la thématique des primes à l'embauche dans le cadre des contrats d'apprentissage. Et il y a des modifications qui sont intégrées à prendre en compte. Et par exemple, actuellement, on est en pleine campagne tarifaire. Donc, tous les ans, l'université revoit ses tarifs de formation. Et donc, au vu du contexte économique actuel et de ce décret d'application qui officialise une baisse significative pour certains employeurs de la prime à l'embauche d'apprentis, ça signifie que les tarifs de formation par apprentissage, il faut qu'on réfléchisse aux tarifs qu'on propose, par exemple.
Oui.
Voilà, un petit exemple là parce que je suis là-dessus. Et il y a d'autres éléments à prendre en compte, évidemment, mais ça, c'est un exemple. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, c'est l'exemple le plus parlant, mais si on doit les évolutions de la formation professionnelle, on a aussi des évolutions pas uniquement juridiques, on a aussi, par exemple, l'intelligence artificielle, alors qui prend énormément de place dans différents espaces, mais pour tous les domaines qui touchent de près ou loin à l'éducation, et la formation professionnelle, c'est un domaine quand même qui touche à l'éducation, l'IA, c'est une question qui commence à être centrale dans comment appréhender l'IA dans le cadre de la formation professionnelle. Oui, ça, c'est une thématique qui est centrale. Donc oui, ça vient un peu bousculer, ça peut venir bousculer des pratiques, ça peut venir bousculer aussi les modalités. Et donc, d'un point de vue, moi, au niveau de des tâches, l'impact que ça pourrait avoir sur la gestion administrative, ce serait d'avoir un peu plus de tâches à distance, d'organiser le travail différemment. Ça pourrait avoir des répercussions, en fait, directes dans le travail. Mais pour le moment, on n'y est pas. Enfin, ce qui nous concerne, pas directement, mais C'est un peu le piège, c'est il vaut mieux s'informer et se tenir au courant pour
Oui.
éviter d'être trop pris,
Au dépôt, oui.
comment dire, trop surpris au moment où ça
Oui.
va arriver, que ça va arriver. Mais voilà, ça au niveau de la formation professionnelle, oui, il y a beaucoup d'évolutions. C'est aussi un marché, donc il y a énormément d'enjeux politico-financiers. Et donc, la formation professionnelle, il y a un marché privé qui est en concurrence avec le marché public.
Oui, bien sûr.
Donc, c'est aussi des éléments à avoir en tête, à comprendre, à minima, et à prendre en compte dans la mesure du possible, quoi. Mais,
Et dans votre métier, qu'est-ce qui vous plaît le plus? Et aussi, qu'est-ce qui peut, à contrario, vous plaire le moins? Car il y a bien sûr des aspects positifs, mais bien sûr toujours négatifs.
là actuellement, je ne sais pas si c'est le métier ou si c'est plutôt le poste. Puisque c'est la création d'un service, j'ai quand même une liberté d'action. Alors, une liberté d'action dans le sens où quand même, je ne fais pas les choses seule. De toute façon, je ne sais pas travailler seule et pour moi, ça n'a pas de sens. Mais j'ai une liberté d'action, une liberté d'agir et parce que j'arrive aussi en tant que experte, mais j'aime pas ce mot-là non plus, en tant que personne qualifiée et connaissant le fonctionnement de la formation professionnelle. Et donc ça me permet d'avoir une marge de manœuvre dans la création d'une dynamique du service, d'une approche du travail aussi, élément sur lequel je suis hyper attentive. Peut-être pas forcément toujours la meilleure, mais en tout cas, je suis hyper attentive à la façon dont on peut approcher, appréhender le travail, particulièrement dans le contexte actuel et à l'université. Voilà. Donc, j'essaie d'avoir une approche. Je veux pas paraître prétentieuse parce que c'est pas du tout le but. Mais j'ai voilà le management un peu verticalisé me convient pas du tout. Donc c'est un peu bousculé quelques collègues de travail puisque c'est pas du tout une façon classique d'appréhender le travail dans les institutions publiques en général. Mais moi je viens de l'associatif et du privé. Je viens de l'associatif et du travail social, et donc je ne me voyais pas
Oui, c'est ça.
appréhender le travail
Bien sûr.
différemment sous un aspect beaucoup plus relationnel et horizontalisé, même si l'environnement, enfin l'organisation du travail est très verticalisée et qu'on est obligé aussi d'intégrer ces éléments-là. Donc ça, c'est ce que je trouve le plus intéressant, c'est cette liberté un peu, cette souplesse et le fait que les directeurs de l'UFR, la directrice de l'UFR et le directeur adjoint me laissent toute cette marge de manœuvre et me fassent confiance. Et il y a l'échange aussi réflexif autour de tout ça. Hein. Je suis incapable d'arriver avec des décisions toutes faites. Et le fait aussi de mettre à contribution les assistants de formation dans les transformations un peu de leur périmètre de travail, des réajustements dans leur activité, parce que bah, c'est venu bousculer tout ça, hein, la création d'un service. Ça, par contre, je trouve ça vraiment passionnant. Donc ça, j'aime beaucoup, mais je ne suis pas sûre que ce soit lié forcément au métier, et je dirais plutôt au poste. Après, en termes de mission et d'activité, bah, je mets en pratique des choses que j'ai apprises en formation, en master 2. Donc ça, c'est super, puisque même en tant que formatrice, j'avais une certaine connaissance. J'ai fait un stage plutôt en tant que consultante en formation sur des missions d'ingénierie de formation et d'ingénierie pédagogique, mais j'avais quand même pas une perception encore globale de ce que pouvait être un responsable de formation. Et là, le fait vraiment d'occuper ces fonctions-là, ouais, ça me donne un aperçu assez concret et ça, c'est plutôt sympa. Enfin, comment dire, mettre en pratique ce qu'on a appris de manière très concrète. Donc ça, c'est plutôt sympa. Les moins, c'est l'organisation de l'université qui me limite, je trouve. importantes dans la marge des manœuvres des composantes à ce niveau-là. Donc peut-être que cet aspect-là, on pourra l'enlever d'enregistrement. Non, mais enfin, voilà, le fait que l'organisation de la formation professionnelle ici, elle ait toujours été centralisée, enfin, en tout cas, moi j'arrive et enfin, le fonctionnement est celui-ci, c'est centraliser la formation professionnelle. Tout ce qui est pilotage, politique, signature, tout est verrouillé au niveau central. Et donc, du coup, bah, ça donne quand même un périmètre d'action qui est un peu limité et contraint. Donc, ça, c'est un peu
Oui,
contraignant.
c'est un schéma propre de toute façon à l'enseignement supérieur en France.
Pas que à l'enseignement supérieur, c'est bien le problème, c'est
Oui.
qu'il y a énormément de secteurs aujourd'hui qui fonctionnent comme ça.
Oui.
Et on voit, et enfin, enfin, faut aller voir du côté de la sociologie des entreprises et la sociologie des organisations qui décrivent très très bien ces phénomènes-là et les conséquences en fait que ça a sur le travail, sur l'organisation des activités. Et bah, c'est étudié depuis les années 70, hein. Bon, bah, on n'a toujours pas compris que ça marchait pas.
On n'a pas avancé.
Hein. Moi, je. Enfin, voilà, bref, tout ça pour dire que je vois bien à quel point. Et puis, là, en plus, aujourd'hui, actuellement, il y a aussi un contexte qui vient rajouter donc, les phénomènes de bureaucratisation intensif, ça, c'est phénoménal, c'est impressionnant. Rationalisation des coûts avec des coupes budgétaires où il y a des gels de postes. Donc, en fait, on fait toujours plus avec moins, quoi.
Oui,
Enfin,
c'est
c'est
ça.
pas plus compliqué. Et ouais, moi, je vois à quel point ça use les gens, quoi. Et moi, je suis là depuis 5 mois. Waouh! Ah ouais, je suis co-contractuelle et je vois bien que j'ai encore la jeunesse, l'innocence du non-fonctionnariat qui est encore un peu là et qui me permet un peu d'être encore critique, enfin d'avoir un esprit critique et d'appréhender mon environnement de travail avec un peu plus de recul. Mais ouais, je peux comprendre qu'au bout de quelques années, ouais, on soit un petit peu abasourdi, quoi, par tout ça. Donc ça, c'est assez. Enfin, c'est fou. C'est pas évident à appréhender. Les conditions de travail ne sont pas forcément idéales. Voilà. Il faut le savoir. Et bon, la rémunération, tout ça, ne me lancez pas là-dessus. On n'a pas fini. Mais voilà. Donc ça, les mois, ouais, c'est vraiment là-dessus. Et donc en termes de perspective d'évolution, bah franchement, on ne sait pas se projeter. C'est hyper compliqué de se projeter dans ces conditions-là. En tout cas, à l'université. Voilà. En ce qui nous concerne. En termes de projection. Donc les mois, il y a ça, l'environnement de travail, enfin les conditions de travail, si on doit le dire un peu plus large, les conditions de travail. Ici à l'UFR, les conditions de travail sont bonnes dans le sens où c'est des gens qui prennent le temps, qui sont soucieux, etc. Mais ils sont aussi soumis à cette organisation verticale qui est plutôt violente. Dernièrement, on a eu une décision très tranchée de bah. De la direction qui est venue dire, direction générale des services qui est venue dire, bah ça s'arrête. Enfin, voilà, on est sur des décisions comme ça assez arbitraires, quoi, qui parfois ne correspondent pas à une réalité de travail. Donc, voilà. Mais ici, en tout cas, il y a un souci de vouloir essayer de prendre en compte la réalité de travail, et c'est ce qui fait que c'est un environnement de travail qui est plutôt bien. Voilà. Ça, j'ai dit positif, le négatif, le négatif, le négatif. Oui, voilà, le salaire, les conditions, les perspectives d'évolution.
Mais pour continuer là-dessus justement, est-ce
Ouais.
que vous avez des conseils à donner à quelqu'un qui souhaiterait travailler justement dans un poste similaire au vôtre, dans cette branche de métier?
Ouais, alors, ouais, c'est vrai que ça paraît très pessimiste ce que je dis, mais il y a beaucoup de choses positives, hein. Beaucoup de choses positives, sinon je ne serais pas là. C'est hyper intéressant, en tout cas dans les postes de la fonction publique en général, mais à l'université, je dirais presque, parce que c'est mon deuxième poste à l'université. Mais de un, travailler au contact d'enseignants-chercheurs et dans un environnement universitaire, c'est hyper intéressant parce qu'on est face à des gens quand même qu'on qui réfléchissent, hein. Enfin, quand je le dis clairement, il y a beaucoup de réflexivité dans le travail, dans la considération, il y a une exigence dans l'offre de formation, dans les modalités, il y a quand même une considération, alors parfois, bon, des proportions plus ou moins en fonction des conditions de travail, enfin voilà, forcément, ça a des effets, mais il y a une vraie considération du public et étudiant. Il y a vraiment un sens du travail bien fait. Les gens sont investis, quoi. Enfin, franchement, le cliché, la caricature du fonctionnaire qui est en dilettante, moi, je l'ai jamais vu dans mes expériences à l'université. Jamais, vraiment. Les gens sont dépassés, débordés, démunis, en difficulté, oui, ça j'ai vu. Mais par contre, des gens qui prennent pas à cœur leur travail, ça j'ai pas le choix.
Oui.
Ou sinon, en tout cas, certains qui en arrivent à vraiment à lâcher l'affaire littéralement, sont des gens qui arrivent à bout, quoi. Enfin, qui sont au bout et qu'on peut retrouver d'ailleurs autant dans le public que dans le privé, hein, des profils comme ça. Voilà, mais alors ça, c'est pour l'environnement de travail de l'université. Et c'est complexe, et donc c'est passionnant. Voilà, c'est-à-dire que tout est... La formation professionnelle, c'est déjà complexe. C'est à appréhender, à comprendre. Il y a énormément de dispositifs, énormément d'expression de la formation professionnelle, d'organisation, de modalités, de métiers. Et à l'université en plus, du coup, ça vient complexifier un peu tout ça. Mais c'est passionnant parce que du coup, ça permet à des adultes d'accéder à des formations universitaires qualifiantes et du coup de participer de près ou loin à faire ça. Ça, c'est quand même gratifiant de se dire
oui,
qu'on permet à des adultes de se former, on permet à des adultes ou des jeunes adultes apprentis, hein, on participe à ce qu'ils puissent accéder à des enseignements de qualité. Enfin, voilà, non, ça, c'est plutôt chouette. C'est agréable. Il y a aussi beaucoup de postes, il y a beaucoup de métiers de la formation à l'université. Il faut se dire ça aussi. Moi, je connais que le mien parce que c'est que le mien que j'ai fait. Mais je sais qu'il y a plein d'autres offres. Il y a de l'ingénierie de formation et alors j'y touche pas directement, ou l'ingénierie pédagogique. Il y a pas mal de postes là-dessus. Et on avait rencontré des ingénieurs pédagogiques et surtout les aspects numériques des formations. Il y a énormément de choses à faire et je pense que tout est à créer et ça doit être passionnant lorsqu'on est passionné par les outils numériques, ce qui n'est pas mon cas. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Et l'université et les enseignants-chercheurs sont demandeurs de ces compétences spécifiques. Donc ça aussi, c'est plutôt gratifiant, quoi.
Oui. De toute façon, ce sont des métiers où on aide aux autres, dans un sens.
C'est ça. Je pense qu'on facilite.
Oui,
on est, enfin, moi, je pars du principe qu'on est là pour faciliter, favoriser, voilà, aider, je ne sais pas. Je ne sais pas si on aide, ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, si on facilite...
Si.
Oui, peut-être, mais je pense que ça dépend de qui est derrière. Il y a des personnes pour qui on n'aura pas d'aide. Il y a des personnes pour qui, peut-être, probablement, il y en aura. Mais je me dis, si on facilite... Puis, moi, je crois qu'on participe aussi au... Ça, c'est... Je crois. J'en suis convaincue et je pense que je ne suis pas la seule. Mais... Il y a des évolutions professionnelles qui sont en cours. Et donc, l'université, elle propose des formations universitaires qualifiantes qui sont quand même très actualisées au regard de leur double casquette d'enseignants-chercheurs. Où ils sont très au fait, en tout cas dans leur domaine de recherche, des avancées. Et du coup, ça permet quand même de proposer en tout cas des offres de formation et des contenus pédagogiques qui sont très, euh, très proche des évolutions sociales, économiques et autres. Et donc, participer à ce que ces formations-là existent, persistent, se développent, se fassent, ouais, ça c'est super. C'est pour ça que je travaille à l'université. Voilà, parce que pour moi, ça a du sens.
Oui.
Je ne serais pas là.
Eh bien, madame, je vous remercie beaucoup pour cette interview. C'était vraiment très intéressant.
Tant mieux, tant mieux, tant mieux.
Je vous souhaite une bonne journée.
Ouais, de même.
C'est déjà la fin de ce podcast sur Radio Campus Tours. J'espère qu'il t'aura plu et n'oublie pas de t'abonner sur la page Instagram d'Écoute un métier. À bientôt.